Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 20 juin de l'an 2001 à Saint-Jodard.
Les dernières fois, je voyais l'un par rapport à la personne humaine, au point de vue de l'âme. Et c'est très vrai que ce point de vue premier, notre unité, qui va avec notre autonomie. L'autonomie n'est pas l'unité. L'autonomie, c'est la non-dépendance. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, l'autonomie est très poussée. On parle beaucoup d'autonomie au point de vue psychologique. On est aliéné. L'aliénation, c'est la dépendance à l'égard d'un autre. Et alors un autre nous aliène parce qu'il prend notre indépendance. Et par le fait même, on est dépendant de lui et on n'a plus cette autonomie. Donc l'autonomie n'est pas l'unité. L'autonomie est une conséquence de l'unité. Il faut être un pour être autonome. L'autonomie est beaucoup plus psychologique. Alors, l'autonomie, en réalité, la substance est l'âme. Et dépendance de Dieu dans une vision de sagesse. Et cette dépendance à l'égard de Dieu ne supprime rien de son unité. L'unité peut très bien exister dans une dépendance. L'autonomie n'existe plus dans la dépendance. Vous pouvez voir. Donc, l'âme n'est pas divisible. Il n'y a pas trois âmes. L'âme végétative, l'âme sensible, l'âme spirituelle. C'était soutenu par certains, d'une certaine manière, psychologiquement, c'est vrai. Il y a trois centres d'autonomie. Vous avez l'autonomie au point de vue du corps, la santé. Quand vous êtes en pleine santé, vous êtes autonome. Vous avez l'autonomie pour vous-même. Dès que vous êtes malade, vous êtes dépendant. Et plus la maladie est forte, plus vous êtes dépendant. C'est vrai, la fragilité, la vulnérabilité nous rend dépendants. On est dépendant. Et par le fait même aussi, on perd son unité. On est divisible. Et vous sentez la multiplicité, la diversité de votre corps lorsque vous souffrez dans un membre du corps. Quand vous avez mal à la tête, vous apercevez que vous avez une tête. Tandis qu'autrement, vous ne s'en apercevez pas. Faites pas attention. Hein. Je tiens ma tête en dedans mes deux mains. Non, vous faites ça automatiquement quand vous souffrez la tête. Vous tenez, vous soutenez la partie malade, votre bras, autrement vous ne le soutenez pas. Il y a une dépendance qui montre bien qu'on est relatif, et là on est plus un, on est dans la dualité, puisqu'on ne peut retrouver son unité qu'en dépendance de l'autre. Oui. Alors, c'est très vrai qu'il y a d'une certaine manière 3 degrés d'autonomie psychologiquement. L'autonomie sensible, la sensibilité, la vie sensible, elle n'a pas du tout d'unité. Elle est dans la diversité. Votre imagination, cherchez l'unité de votre imagination. Il n'y a pas d'unité dans l'imagination. Ça fout le camp. dans tous les sens. Et quand vous voulez arrêter, ça repart dans l'autre côté. Il n'y a pas d'unité dans la dans le point de vue sensible. Et là, on a 5 sens, ce qui montre bien. Il y a bien sensus communis, comme on dit, le sens commun, mais qu'est-ce que c'est ? C'est l'union qui existe dans ces 5 sens, ces 5 modalités de la sensibilité. Et on parle de la sensibilité du toucher. On parle de la sensibilité de chacun des sens. Il y a quelque chose de commun. Il y a une connaissance sensible. Et la connaissance sensible prend ses différents. Il n'y a pas d'unité. On est tout de suite dans la diversité. C'est très curieux, cela. Et l'imagination pourrait, d'une certaine manière, faire une union, puisque l'imagination dépend des sens. Vous avez une imagination tactile, vous avez une imagination visuelle, vous avez une imagination auditive. Après, l'imagination suit chacun des sens, comme la mémoire. Pas d'unité. Parce que vous n'avez pas de finalité dans la sensibilité. Et au point de vue de la diversité, la connaissance elle-même apparaît dans cette diversité tout de suite. La sensibilité naît de la diversité et elle demeure dans la diversité. Pas d'unité possible. La vie intellectuelle, au contraire, elle peut avoir une unité. L'unité de ce qui est jugement d'existence. Il n'y a pas d'unité dans l'appréhension. Vous avez de multiples concepts, de multiples définitions. Tandis que le jugement me ramène à ce qui est. Et ce qui est donne une unité fondamentale. Parce que tout de suite, vous voulez savoir si ceci existe ou si c'est imaginaire. L'imagination n'a pas d'unité. La vie intellectuelle ramène toujours à ceci est. Et s'il n'y a plus de jugement d'existence, vous n'avez plus d'unité. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous avez une unité du système. Vous inventez une unité logique. Le système. Le système qui doit être en harmonie. Donc, vous voyez, l'unité réelle, fondamentale, c'est le jugement d'existence. Et la finalité, Dieu. Vous avez deux pôles d'unification de votre vie intellectuelle. Le point de vue du jugement d'existence. Vous ramenez toujours tout à ce qui est. Parce que dans le possible, vous n'avez pas d'unité. C'est pour ça que si vous perdez dans le possible, c'est l'imagination, la plupart du temps, qui alimente le possible. Alors, il n'y a plus aucun repos. Plus aucun repos dans le possible. Vous êtes dans l'agitation et vous courez après tous les possibles. Et les possibles sont infinis. Vous n'avez jamais fini dans le possible. Il n'y a pas de repos. C'est pas étonnant, parce que le possible, au point de vue de l'être, c'est la potentialité qui est le fondement de toute diversité. Donc pas d'unité dans l'appréhension, mais unité dans le jugement. Et unité dans le jugement au point de vue de l'être. L'être me donne une certaine unité de toute ma métaphysique. Mais cette unité de la métaphysique se termine dans l'affirmation de l'existence de Dieu. Oui. Alors, il y a une certaine unité immanente et une unité transcendante. L'unité immanente, elle est infinie. Vous avez terminé de voir tout ce qui peut exister et tout ce qui existe. Je n'ai pas fait le tour de tous les existants, et vous non plus. Mais vous les ramenez toujours à ce qui est. Et ça ne changera pas beaucoup votre conception de l'être. Et c'est pour ça qu'on a une unité non pas dans le concept d'être, ce qui permettrait de déduire toutes les modalités possibles, mais vous avez une unité dans le jugement d'existence. Parce que vous saisissez l'être en acte que dans le jugement d'existence. Et alors là, vous avez une unité. Et la métaphysique a cette unité. Mais très vite, on tombe dans le possible. Vous voyez, la métaphysique, quelquefois, oublie le caractère très particulier de l'un, l'être en acte, l'être en substance, n'est-ce pas, ne me donne pas une unité parfaite. Et l'être en substance, je le saisis quiditativement. C'est tout ce qui est intelligible, c'est tout ce qui est possible. C'est l'être en acte, jugement d'existence, qui seul pose cette unité. Et l'autre unité, ce jugement d'existence, s'achève dans le dernier jugement d'existence. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Vous avez la nécessité dans l'existence. Et la seule nécessité dans l'existence, c'est justement Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe nécessairement. Vous, moi-même, nous n'existons pas nécessairement. Nous sommes dans notre existence. Non pas nécessaire, mais nous dépendons de la cause première. Alors, on peut très bien échapper à la corruption, échapper à la mort, échapper à l'anéantissement. Les deux pôles par lesquels je suis détruit, hein, la mort qui détruit mon unité complexe de l'âme et du corps, elle est détruite par la mort. Mon unité substantielle est détruite par la mort. Et l'anéantissement, c'est la destruction de ce qui existe. Vous voyez ? Je sais que dépendant de la sagesse de Dieu, Dieu ne me détruira pas. Je ne serai pas anéanti. Oui. Parce que Dieu, créant un esprit, se porte garant de l'esprit. Le petit crapaud peut disparaître. Il peut d'une certaine manière. Et il n'est jamais anéanti du reste. Parce qu'il disparaît dans le crapaud, un autre singulier, mais il n'est pas anéanti. Rien n'est anéanti. Dieu n'anéantit pas son œuvre. Elle est modifiée. Et le monde physique peut connaître, alors là c'est un très gros problème, le philosophe ne peut rien dire. Que deviendra notre monde physique? Philosophiquement, je ne peux pas le dire. Que deviendra notre monde physique? Notre monde physique est créé pour l'homme, mais quand l'homme meurt, son corps seul demeure, ne demeure dans sur l'univers que ce qui dépend de l'univers. Mon âme ne dépend pas de l'univers. Et donc je ne sais pas ce que deviendra l'univers. Au point de vue surnaturel, je parle de la résurrection des corps. Le philosophe peut en avoir une espèce de hantise, de soif. Alors il inventera des systèmes de réincarnation qui seront des pseudo-résurrections, n'est-ce pas ? C'est tout à fait la pseudo-résurrection, mais c'est parce que, au fond, l'homme, instinctivement, refuse l'anéantissement. Alors comment ça doit durer ? Ben, c'est très simple. On se réincarne dans un autre. Et on prend un autre corps. La foi montre qu'il n'y a pas de réincarnation, mais qu'il y a une résurrection. Alors, quelle sera la résurrection du monde physique? Puisque le monde physique n'a de sens que pour mon corps et mon âme dans la sensibilité. Mais mon âme spirituelle n'est pas liée au monde physique. Je ne serais pas malheureux de quitter ce monde physique. Je serai avec toujours un certain amour vis-à-vis de mon corps. C'est une guenille qui m'est chère. Donc j'aurai toujours un certain amour pour mon corps dans l'univers. Mais pour les arbres, pour les animaux, il y aura une affection, mais dire qu'on voudra que l'âme du chien se réincarne dans un autre chien, non. Théologiquement, je dois tout regarder à propos de la résurrection du corps du Christ. Nous ressusciterons tous sur le modèle de la résurrection du Christ. Alors, l'univers physique, point d'interrogation. Est-ce que l'univers physique existera dans notre corps ressuscité? Toutes les potentialités, une transformation du monde physique dans tous les corps ressuscités. Les corps ressuscités n'auront plus besoin du monde physique. Alors, est-ce que les corps ressuscités représenteront l'univers ? Ben, la conception des anciens, que le corps est un petit univers, et par la résurrection des corps, cet univers deviendra parfait à l'image du corps du Christ. Et par le fait même, retrouvera une nouvelle unité. Sûrement que le corps glorifié retrouvera une nouvelle unité. Une unité beaucoup plus parfaite. Une unité qui dépendra du corps du Christ, du corps glorifié du Christ. Nous serons tous relatifs corps glorifié du Christ. Et nous serons là, dans notre finalité ultime, dernière. Oui, c'est encore l'unité. Est-ce que l'unité brisée par la mort, parce qu'il y a une brisure, la mort représente une brisure, cette division que la mort opère entre l'âme et le corps, qui fait que mon âme alors acquiert sa finalité, ayant acquis sa finalité, je parle au point de vue surnaturel, ayant acquis sa finalité, il y aura, par le mystère du Christ, une résurrection du corps, et par le corps de notre univers. Je crois que l'univers sera ressuscité par tous les corps des hommes. Une myriade de myriades, comme dirait l'Apocalypse. C'est-à-dire, on ne peut pas compter. Donc, je vois bien que c'est l'unité provenant de la fin qui assume la première unité, celle de la substance, et l'unité de la fin commence par l'unité de l'intelligence et de l'amour. L'amour spirituel. Et je demeure avec cette division par rapport à mon corps. Et là, philosophiquement, je ne peux rien dire. Je peux seulement émettre des espèces de nostalgie d'unité, émettre des systèmes philosophiques du futur. Le philosophe ne peut rien dire du futur. Il y a une brèche. C'est un néant. De l'importance du prophète. Le prophète, c'est l'homme qui habitue l'homme à vivre de l'avenir, du futur. Le prophète rend présent le futur et fait que le futur n'est plus quelque chose de conditionnel, mais quelque chose de réel. Il permet au futur de devenir réel. Mais le prophète, et le prophète, au plan surnaturel pour nous, conduit au Christ. Et à partir du Christ, tout chrétien est prophète. Il est au moins prophète pour son corps. Je sais qu'un jour, il y aura la résurrection. Dans l'espérance prophétique du mystère du Christ. Alors, certains m'ont posé, et je comprends très bien que la question se pose, comment se fait-il que l'unité dans les notes de l'Église est quelque chose de si important ? Si l'unité n'est que propriété de l'être, il semble que l'unité au plan surnaturel va dépasser l'être. Et donc, au plan surnaturel, Platon est beaucoup plus philosophe qu'Aristote. C'est un philosophe de la résurrection, en mettant l'unité au-dessus de tout. il a une philosophie qui irait mieux avec ma conception de l'Église. Et je vois très bien l'objection, hein. Et je crois que vous l'avez tous au fond de vous-même sans vouloir la ressortir. Comment se fait-il que je dis l'Église, l'unité dans l'Église, c'est quelque chose de capital. L'unité dans la communauté, c'est quelque chose de capital. Marthe me disant, veillez à l'unité. C'est ça la première chose qu'on doit veiller. Parce que la division diminue dans la force, c'est évident. À la place d'être tous unis et d'avoir tous le même but, la même finalité, et tous lutter ensemble, la division fait deux camps. Et les deux camps sont affaiblis par la division. Donc la division est toujours un malheur, un affaiblissement, puisque les forces se divisent. Alors je comprends que l'Église met l'unité pas avant l'être. C'est là où je redresse tout de suite. On ne met pas l'unité avant l'être. On veut un être unifié. On veut une Église unifiée. L'être, c'est l'Église. Je ne veux pas l'unité pour l'unité. Je veux l'unité de l'Église. Ah. Si vous dites « je veux l'unité de l'Église », vous voyez bien que l'unité est une propriété. L'Église, c'est le corps mystique. L'Église, c'est la vigne. Les deux grandes comparaisons. Le corps mystique, la vigne. La vigne, c'est la dernière allégorie sur l'Église, dans saint Jean. Le corps mystique a été révélé bien avant. Vous avez les deux. Là encore, c'est curieux, hein ? Vous avez deux types d'unités, substance et acte. Oh. Au fond, vous avez l'unité substantielle, le corps mystique. L'unité de l'acte par la fécondité, la vigne. L'unité de la vigne, c'est dans ses fruits. C'est la fécondité. C'est la finalité. Parce que justement, l'allégorie se sert de quelque chose de plus grossier que le corps mystique, elle permet de révéler quelque chose de plus secret. Et elle révèle quelque chose de plus secret. Oui, si vous cherchez quels sont les rapports entre corps mystique et vigne, vous voyez que le corps mystique a été révélé beaucoup par saint Paul. La vigne Saint-Jean, à la fin, dans la dernière semaine. La vigne à partir du paraclet, et dans la lumière du paraclet. Et c'est ultime, c'est dernier. Alors, vous voyez bien que l'un est pris de deux manières différentes. Donc, ce n'est pas la dernière vision sur l'Église. C'était la dernière vision sur l'Église, il n'y aurait qu'une unité. C'est donc relatif à l'être. Le corps mystique, c'est l'Église, la vigne, c'est l'Église. Et donc, l'Église, qu'est-ce que c'est ? L'assemblée des enfants de Dieu, des enfants du Christ. Donc, la sainteté qui est personnelle passe avant l'unité. Le Saint-Père relève avec une très grande vérité dans Duc in Altum que le chemin de toute pastorale, c'est la sainteté. Donc, ça montre que avant le point de vue corps mystique vigne, avant, il y a la sainteté personnelle. La sainteté personnelle est quelque chose de plus radical. Il n'y a qu'une sainteté. On ne dira pas qu'il y a deux saintetés. La sainteté des actifs et des contemplatifs. Non, c'est la même sainteté. S'il y avait deux saintetés différentes, il y aurait justement deux églises différentes. Il y aurait l'église de la sainteté contemplative et l'église de la sainteté apostolique. Vous voyez, l'unité reste donc quelque chose de second, relatif à la sainteté de l'Église. Et c'est quelque chose de premier par rapport à l'Assemblée. C'est très curieux et c'est très intéressant. Donc, je dirais, la finalité immanente et la finalité transcendante. Au point de vue de la vitae immanente, il faut l'unité. La vérité transcendante, c'est la sainteté. La sainteté touche la personne. Alors, il y a toujours ces deux aspects qui reviennent, n'est-ce pas ? Je vous l'ai déjà dit, et je le redis maintenant, puisque c'est la question du gouvernement. Le gouvernement de Dieu est paternel. Et parce qu'il est paternel, il regarde la sainteté personnelle. Le gouvernement de Dieu aussi regarde l'ensemble. Et pour l'univers, comme il n'y a pas de personne, et que je n'ai même pas une personne, l'unité reste la chose principale. L'harmonie et l'unité de l'univers. Mais pour la personne, donc pour le chrétien, avant l'unité, et plus profondément que l'unité, il y a sa sainteté personnelle. Mais, alors, on pourrait dire que dans l'Église, il y aura toujours deux tendances. La tendance de la sainteté personnelle et la tendance de l'unité immanente. On voit très bien comment ces deux aspects toujours doivent s'harmoniser. Et c'est là qu'on voit que la philosophie aristotélicienne seule peut donner cela. Parce qu'autrement, vous ne pouvez plus distinguer l'unité immanente et l'unité transcendante. Aristote, à la fin des métaphysiques, montre bien qu'au plan du gouvernement de Dieu, il y a toujours les deux. Dieu gouverne chaque individu, chaque personne, vers la sainteté. Je peux le dire même au plan philosophique. Au plan philosophique, la finalité personnelle passe avant le bien commun. Le bien commun est pour la finalité personnelle. Et la finalité personnelle est unique. Et c'est ça le gouvernement paternel. Le gouvernement paternel regarde le point de vue de la personne. Et c'est le point de vue de la personne qui est vu comme finalisant tout. c'était le point de vue de l'unité immanente dans le bien commun. Et dans le bien commun, l'unité est quelque chose de très absolu. Parce que toute communauté divisée est vouée à la mort. Jésus le dit, hein, ton royaume divisé est voué à la mort, forcément. La communauté réclame l'unité. Elle veut l'unité. Mais elle veut l'unité par la finalité des personnes. Si je ramène le bien des personnes au bien commun, je coupe les têtes pour que tout le monde soit dans l'égalité. Et à ce moment-là, on ne respecte pas la finalité personnelle de chacun. On ramène la finalité personnelle de chacun à un bien commun. Oui. Et par là, vous comprenez que la philosophie aristotélicienne va aider et pouvoir aider d'une façon plus efficace le mystère pour expliciter ce qui nous est donné dans la révélation. Les deux grandes comparaisons, corps mystique, vigne. Il faut en prendre d'autres aussi, le peuple de Dieu, mais c'est moins fort. Tandis que là, c'est deux données qui sont qui se rapportent directement à le point de vue de l'unité de la substance et de l'unité de l'acte. Il fait comprendre le point de vue de la finalité personnelle et le point de vue du bien commun. Et ça, c'est très très utile à voir très nettement dans la philosophie de l'un. Dans la philosophie de l'un appliquée à la personne. Il y a en moi, en chacun d'entre nous, il y a deux aspects. Nous sommes dans une communauté humaine et nous appartenons tous à une communauté humaine. Et dans cette communauté humaine, nous avons une finalité personnelle. Qu'on doit respecter et qu'on doit regarder comme ce qui commande à tout le reste. Et c'est pour ça qu'on sent très bien qu'un régime totalitaire qui ramène tout au bien commun est quelque chose de fou. Parce qu'on oublie le point de vue de la fin personnelle. Dès que vous regardez le point de vue de la personne, complexité qui est en nous, dans la personne, voyez que nous avons tous une nature humaine commune et nous avons tous une âme unique. Elle est deux choses. D'une façon permanente, il y a comme une espèce de lutte entre les deux. Le bien commun qu'on doit aimer et qu'on doit favoriser et qu'on doit tous maintenir, on est tous responsables du bien commun. Et dès qu'il y a une société, une communauté, il y a un bien commun. Et puis, le bien personnel. Vous voyez, ça va très loin, ça. Parce que ça fait toucher tout de suite le point de vue, la vérité touche le point de vue de l'être et touche le point de vue de la fin. il y a une vérité qui est le bien commun. Oui, le consensus universel. Tout le monde est d'accord. C'est parfait. Tout le monde est d'accord, ça ne veut pas dire du tout qu'on est dans la vérité. Ça veut dire que tous, on avons les mêmes opinions. La vérité, elle est personnelle. Le bien commun est politique. Il n'est pas personnel. Alors, le bien commun ne nous donne pas notre vraie finalité. On utilise le bien commun. On s'en sert. Il y a un milieu qui nous aide à réfléchir, à trouver notre finalité. On se sert du bien commun, mais on ne ramène pas tout au consensus universel. On doit comprendre cette unité de la personne qui touche notre esprit et qui nous fait découvrir la vérité. C'est très important, ça, de bien saisir les relations entre le point de vue communautaire et le point de vue personnel. Alors, le point de vue surnaturel, par le précepte de charité, qui est aimer Dieu, aimer le prochain, qui est dans l'unité. Vous allez me dire alors que le bien commun de l'Église et le bien personnel s'identifient. C'est très vrai que lorsqu'il s'agit, au point de vue surnaturel, de la charité, l'amour à l'égard de Dieu, c'est le point de vue personnel. L'amour à l'égard du prochain, c'est le bien commun. Or, l'amour à l'égard de Dieu et l'amour du bien commun s'identifient à la croix. Jésus, par le même acte, glorifie le Père et nous sauve. Et nous disons, et on a raison de le dire, que la charité est unique. Elle regarde Dieu et regarde le prochain. Il y a donc une unité beaucoup plus profonde dans l'Église, et c'est le propre de l'Église, entre le bien commun de l'Église et le bien personnel de ma sainteté. Une unité beaucoup plus forte que dans toute communauté humaine. Mais s'il y a unité de charité entre Dieu et le prochain, il y a un ordre. L'amour de Dieu est premier, l'amour à l'égard du prochain est second. Donc la finalité personnelle est première, la finalité communautaire est seconde. Il y a un ordre. Et cet ordre est d'autant plus important qu'il y a une unité dans l'amour. Mais nous retrouvons quelque chose d'analogue avec la très sainte Trinité, où il y a la sainteté des trois personnes et l'unité substantielle des trois personnes. Et puisque l'Église, c'est l'Église du Christ et de la très sainte Trinité, on voit bien comment, jusque dans l'Église, on retrouve, par la charité, quelque chose d'analogue à la très sainte Trinité, la finalité de la sainteté personnelle demeure première, mais elle reste intimement liée à la finalité du bien commun, la charité fraternelle. Celui qui prétend aimer Dieu et ne pas aimer son frère est un menteur. Donc celui qui prétend sa finalité personnelle sans regarder la finalité du bien commun, la finalité immanente du bien commun, est un menteur. Si divise ces deux et les sépare, il y a une unité qui se fait par et dans le Christ. Et c'est ça qu'on touche vraiment, lorsqu'il s'agit de l'Église, un mystère d'unité, comme dans la très sainte Trinité. Il y a un mystère d'unité dans la diversité des personnes. Pour chacun de nous, on est un dans l'Église et un avec l'Église, et on est une personne. Et pour chacun d'entre nous, il y a cette sainteté personnelle, contemplative, qui est unique. Et puis, la sainteté du bien commun. La sainteté de l'Église. Qui sont intimement liées, mais qui toujours sont distinctes. Et il faut respecter cette distinction, mais surtout ne pas en faire une séparation. C'est là où on voit que bloquer, confondre, distinction et séparation, confondre, distinction et séparation, c'est s'empêcher d'être dans la vérité. Jusqu'au bout existe cette distinction. Distinction réelle des personnes et unité réelle. Distinction réelle de la charité fraternelle et la charité de Dieu. Alors là, c'est une distinction réelle et unité dans l'amour. Donc, je vais plus loin que l'un. Si l'un était ultime, je ne pourrais pas faire cette distinction. Mais si l'un est propriété, ah oui, substance, acte.